décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 48, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Alors tu as une énorme revue de presse.
Gigantesque.
Association Mode d'emploi, Bénévalibre, Libre, un logiciel pour se simplifier la valorisation du bénévolat par Laurent Costi.
Que l'on connaît.
Bah oui, c'est un administrateur de l'April.
Et donc c'est un logiciel qui permet d'enregistrer quel travail on a fait pour une association. Pas obligatoire, hein, c'est utile pour notamment être valorisé dans les comptes de l'association. Ça permet parfois d'avoir un peu plus d'argent.
Voilà, alors pour expliquer, ça mérite quelques secondes. L'idée, c'est qu'on va enregistrer le temps de travail dans les comptes. Ça va s'équilibrer hein, parce qu'ils ne sont pas payés. Mais du coup, si on va les demander des subventions, on est beaucoup plus solide quand on dit « Donnez-nous un peu d'argent et regardez tout le boulot qui est fait dans notre association. » On n'est pas juste en train de courir après l'argent et on ne va rien faire. Donc si vous mettez une subvention, vous subventionnez une association qui a une vraie activité.
Et donc bénévalat libre, ça vient de bénévolat valorisé. C'est fait avec un logiciel libre par une entreprise qui fait du logiciel libre du Nord et qu'on salue avec plaisir. Programmé, le CNLL révèle la difficulté pour les clients à bénéficier de l'expertise des éditeurs de logiciels libres par Frédéric Mazu.
Donc c'est un sujet qui a l'air assez important, il y a d'autres articles qui en parlent. Mais en gros, les petites sociétés qui font du logiciel libre sont peu démarchées par les marchés publics notamment, par les institutions, par les grosses boîtes. Et c'est dommage, donc on repasse à chaque fois par des SS2I importantes. Ça n'aide pas à faire développer un marché. Il n'y a pas de raison en soi. Le CNLL, ceci dit, peut être utile pour cela parce qu'il regroupe des petites entreprises notamment.
01net, une pétition lancée pour sauver le .org par Amélie Charnay.
Donc c'est un truc qui est en train de se passer en ce moment. L'extension de nom de domaine ORG vient d'être vendu, il me semble, pour plus $1 milliard. Ça passe des mains d'une association à une entreprise, mais il y a des liens un peu bizarres entre les gens qui ont fondé cette entreprise, il semblerait. Et en tout cas, y a plein de gens qui sont pas contents parce que ils ont acheté un ORG, un domaine en ORG. C'est pas pour que le prix soit multiplié par 10 en quelques années, donc ça fait un peu mal au cœur.
Voilà, donc il y a une pétition qu'on peut signer, vous pouvez aller sur april.org pour retrouver les références de cette pétition.
Next Impact, le plan du CNRS pour atteindre 100% de publications en libre accès, idéalement d'ici fin 2020, par Sébastien Gavois.
C'est le fait de publier des articles scientifiques ou technologiques qui soient libres d'accès, donc que tout le monde peut lire facilement, et pas simplement en passant par des grosses revues qui coûtent des milliers et des milliers d'euros, qui sont bloquantes et ça n'aide pas à répandre la science.
On rappelle, il y a encore quelques années, hein, le domaine scientifique était complètement gangréné par cette logique purement commerciale où on mettait des brevets de partout, plus le système des publications. Et c'était considéré comme vraiment bien, donc c'est un retournement qui fait plaisir.
ZDNet France, Allemagne, la CDU veut rendre obligatoire le logiciel libre quand il est payé par l'argent public par Thierry Noisette.
Donc là aussi, c'est une grosse nouvelle, c'est une importante nouvelle. Ça suit en plus des campagnes qui ont été faites par la FSF et l'April. Public monnaie, public code, donc code public, argent public. Donc là, il y a un parti qui se propose de faire cela.
En Allemagne,
d'autres le feront. Oui, en Allemagne, il faut bien commencer quelque part, hein, c'est déjà pas mal. On peut espérer que les partis français qui aiment l'Allemagne en général, ils aiment déclarer qu'ils s'en inspirent. Là, il faut qu'ils s'inspirent directement de cela.
Et la CDU, c'est le parti politique d'Angela Merkel, hein, pour rappel.
C'est important, ouais, ça reste important.
FZN, Arctic Code Vo, le nouveau projet de GitHub pour archiver tous les codes open source publics par Richard.
Donc ça fait 3 semaines qu'on en parle parce que ça reste dans l'actualité, c'est-à-dire que GitHub, une partie maintenant de Microsoft, va conserver des logiciels libres au pôle Nord.
Ils vont les garder au frais.
Ils vont les garder au frais et en plus avec des bouteilles, en tout cas des espèces de cul de bouteille. C'est un peu l'idée, il y a des technologies qui sont en train d'être mises au point pour essayer d'assurer que le code source qu'on produit aujourd'hui soit conservé pendant des milliers d'années.
ICT Journal, le projet open source de microprocesseur RISC-V, ou RISC-5, je ne sais pas, quitte les USA pour la Suisse, par Yannick Chavan.
Donc c'est une des conséquences des actions de Trump vis-à-vis de la Chine. Trump a essayé de bloquer des échanges de technologies en arguant qu'il y avait des vols de ces technologies et qu'il y avait une compétition indue de la Chine. Eh bien, une des conséquences de cela, c'est que pour propager un peu des technologies et mettre à disposition des technologies, la fondation RISC se déplace, va en Suisse, pour ne plus être sous le contrôle de Trump. Donc c'est quelque part une conséquence néfaste pour les États-Unis. Et il y a d'autres sujets qui tournent autour de cela. Ça aussi, c'est des choses dont on reparlera sûrement.
Le monde informatique, les logiciels libres progressent dans les collectivités territoriales, par Aurélie Chandez.
Donc un des autres articles qui suit les labels territoires numériques libres, qui ont été accordés par différentes associations il y a peu de temps. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des retombées dans la presse sur ce genre de sujet. Alors le sujet du jour,
c'était parler publicité. Enfin, pas que publicité, mais...
Attends, je mets mon bloqueur.
C'est parler un petit peu des bulles. On sait qu'il y a des bulles spéculatives, qu'il y en a eu sur Internet. Il y a la fameuse bulle des années 2000. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent il y en a peut-être une en cours, parce qu'on voit des tas d'entreprises qui sont rachetées très très chères. Il y a des scandales très récents. Il y a une boîte qui faisait une sorte de...
Alors, du coworking, de l'allocation de bureau, en tout cas, voilà, de manière générale.
Mais avec une appli, donc c'était...
Soi-disant, c'était une start-up informatique, mais en fait, non, ils louaient des bureaux. Voilà. Et donc, cette entreprise avait fait vraiment beaucoup d'émules en bourse, et elle avait une valorisation boursière gigantesque, mais une fois son entrée en bourse réalisée, on s'est aperçu que c'était du vent, et ils se sont écoulés.
Ce genre de truc, ça arrive un peu tout le temps. Et je suis tombé sur un long article que j'ai trouvé assez intéressant sur les outils qui vont permettre de mesurer la publicité, son efficacité, à qui on adresse les pubs, etc. On en parle ici très régulièrement.
Bullshit.
Voilà. Alors, c'est quand même intéressant en soi, parce que je veux dire, on est les premiers à dénoncer les risques de la publicité ciblée, ou de la manipulation. On a en souvenir Cambridge Analytica.
Qui était un outil, soi-disant, de mesure en partant des réseaux sociaux des individus, de la société, d'une partie de la société, et qui a utilisé cette connaissance, soi-disant, pour nous manipuler.
Mais pas forcément vis-à-vis de la publicité. Hein. C'était aussi juste par rapport à ce qui était affiché dans notre fil. Et dans le fil, c'est pas forcément de la publicité.
Alors, c'était beaucoup de publicité politique, puisque ça a été utilisé pour l'élection de Trump et pour le Brexit. Donc deux élections dont tout le monde dit que ça ne marcherait pas. Et où ça marchait. Donc il y a toujours cette idée que cette utilisation des données personnelles et cette personnalisation des messages était super efficace pour manipuler les gens.
Tout ça en opposition à l'ancienne publicité, la publicité classique qu'on retrouvait dans les journaux et dans les magazines, qui était une publicité simplement d'apparence, c'est-à-dire on vous montrait une voiture. Aujourd'hui, la publicité, c'est supposé être une publicité ciblée. C'est-à-dire qu'on utilise les informations qu'on a sur vous pour afficher de la publicité et grâce à ça, la valoriser auprès des acheteurs de publicité et des acheteurs d'espace. C'est à la suite d'un changement de marché qui est considérable.
Bah effectivement, hein, si par l'étude de nos données personnelles, on sait par exemple qu'une personne joue à des jeux sur son téléphone portable, bah on peut, quand on sait où elle va, lui présenter des pubs pour des jeux de téléphone portable par exemple.
Alors, quelque part, c'est là aussi le pendant de ce qui se faisait dans le papier. Il y avait des magazines qui étaient supposés être ciblés sur des populations. Donc les 18-25, bah oui, il y avait des magazines pour les 18-25, il y avait des magazines pour les professions, les catégories professionnelles plus, hein, donc les riches. Et aujourd'hui, bah, on le retrouve, par exemple, les iPhones sont supposés pouvoir supporter de la publicité plus chère parce que les possesseurs d'iPhone sont supposés avoir plus d'argent.
Mais tout ça, c'est des supposés.
Dans tous les cas, ce sont des supposés.
Ah, et... Alors, c'était une des nouveautés, une des choses qui étaient vendues par Google, notamment quand ils sont arrivés, face au vieux monde de la publicité. Ils ont dit, vous faites, en gros, vous êtes dans l'art, hein, c'est-à-dire que vous supposez que c'est un effet, vous essayez d'imaginer une sorte de message le plus universel possible et qui touche tout le monde. Et nous, on est capable de mesurer tout ce qui se passe, on sait qui clique, sur quoi, quand. On est capable de dire qui clique, et donc du coup on peut retracer, faire un profil, exploiter les données personnelles des gens pour dire bah, telle personne ça sert à rien, lui essayer de lui vendre des cannes à pêche. C'est toute la révolution publicitaire d'internet est basée là-dessus. Et donc j'ai lu un long article en anglais, donc publié sur un site qui s'appelle The Correspondent, et qui dit que la nouvelle bulle du .com, hein, .com, c'est que en gros toute la pub en ligne avec tous ces systèmes de profiling, en fait c'est du bidon, et que derrière il n'y a rien de solide.
Ah, ça, c'est un article intéressant.
Alors, c'est un article qui doit faire mal au cœur à pas mal de gens qui possèdent ces grosses entreprises, parce que le marché de la publicité, il est juste gigantesque. C'est là où il y a l'argent en ce moment. Donc, commencer à leur dire, attention, c'est du vent, c'est le risque de faire exploser tous les modèles et les business models qui fonctionnent en ce moment sur Internet.
Mais c'est une très bonne idée. Hein.
Et les conséquences potentielles sont vraiment intéressantes. Il y a quelques semaines, Twitter a annoncé qu'il y avait une erreur dans leur algorithme qui comptait la pub, et le cours de Twitter s'est effondré en bourse au moins momentanément. Et là, dans cet article-là, il cite donc des économistes, des gens qui se penchent là-dessus, qui travaillent dans le milieu, et notamment un qui est allé interroger des boîtes qui vendent de la publicité, en leur demandant « Ok, c'est quoi vos méthodes ?» Et là, ils ont sorti des trucs mathématiques super compliqués, et quand il les a entendus dire, lui qui connaît a dit « Mais en fait, ils sont juste en train d'essayer de m'enfumer sous des tas de noms compliqués pour faire du jargon, en fait. » Que l'article raconte que quand il a commencé à demander des détails en disant « Ok, vous faites tel truc, mais alors c'est quoi vos contraintes, ceci, cela ?» Les mecs ont dit vous êtes sur un portable, on vous entend plus très bien, et paf, ça a raccroché.
Non, mais c'est des scripts automatiques, ils n'ont pas besoin de comprendre, ça leur sort des chiffres.
Alors derrière, ils justifient en disant non, mais on a des trucs hyper intelligents. Et cette même personne et d'autres ont travaillé notamment pour le site de vente eBay. Et en disant, ok, c'est quoi vos campagnes de pub? Comment vous pouvez être sûr que ces campagnes de pub vous rapportent de l'argent? Derrière, il y a des ratios qui disent pour 1$ de pub, on gagne 12,85$ ou un chiffre de ce genre-là. Quoi.
Sauf que eBay, effectivement, ils ne peuvent pas vraiment être sûrs de ce que ça leur rapporte pour de bon.
Et ben, les autres ont dit, si, ça nous rapporte. Et lui disait, bah, regardez, tous vos trucs, ça ne tient pas la route. Et si vous arrêtiez la pub pendant un certain temps, on verrait la différence.
Oh là là, eBay, ils n'ont pas dû être enchantés par l'idée même de faire ce genre de choses.
Et non, ils ont dit, bah, surtout pas. Sauf qu'à un moment, ils ont essayé de renégocier les tarifs à la baisse et que pendant 3 semaines, de fait, il n'y a plus eu de pub eBay sur les moteurs de recherche. Et en fait, il a pu faire son observation et s'est aperçu que les gens qui cliquaient sur les liens sponsorisés, en fait, bah, cliquaient sur le lien normal. Et que, en fait, ça n'a eu aucune conséquence sur la fréquentation du site.
Alors, tout ça, c'est pour les sites qui sont déjà connus, qui ont une notoriété certaine, et il est effectivement possible que ces sites-là n'ont pas besoin ou peu besoin de publicité pour exister. La publicité va sûrement rester importante pour les sites qui sont moins connus.
Qui seront totalement noyés par la publicité d'autres sites. Non, c'est ridicule, en fait.
Ah, mais c'est une guerre sans fin. Mais comment s'assurer de...
C'est ça, c'est là où les plus gros ont les moyens d'exister dans un espace médiatique et où la capacité de gober l'information des gens est limitée. C'est sûr que si demain Manu lance un site de commerce qui s'appellerait, je sais pas moi, Manu France par exemple.
Bizarrement.
Et ben, il va avoir du mal à avoir des clients parce que personne va le connaître.
Ah, donc autant ne pas payer de publicité quoi.
Bah, dans ce cas-là, il démarrera jamais s'il paye pas de pub.
Ou alors, il faut rentrer en bourse, demander à des actionnaires potentiels de donner beaucoup d'argent et mettre des dizaines de millions pour créer une marque à partir de rien, si ce n'est de la publicité.
Ou faire de la qualité. Comptez sur le bouche à oreille et foncez à fond dans le local.
C'est old school, on dirait une libraire.
Non, mais voilà, logiciel libre, c'est ce qu'on fait. Mais les gens qui utilisent du Linux sur leur ordinateur, ça reste très minoritaire. Donc cette capacité, elle a quand même cette importance. En revanche, que dit l'article, parce qu'il ne parle absolument pas de cette question des gens qui ne sont pas connus, mais que dès qu'on est connu, en fait, ils disent on n'a aucune preuve, on a plutôt des preuves contraires, que les campagnes de pub forceraient l'achat. Et il dit bien souvent, bah en fait, les publicitaires ciblent les gens qui iraient déjà sur tel ou tel site. L'exemple qu'il donne, c'est quelqu'un qui aurait sa pizzeria et qui paierait 3 personnes pour distribuer des prospectus avec des bons cadeaux.
À des gens qui viennent déjà dans la pizzeria.
Voilà, il dit, sur un des trois, il y en a...
Bravo
voilà, sur un des trois, il y en a un qui, où ces bons sont très très souvent utilisés par les clients. Il lui dit, mais où est-ce que tu les distribues? T'es vraiment très fort. Il dit, bah... dans le hall de la pizzeria.
Et donc
où,
forcément,
où sont déjà tous les clients.
Et donc publicité totalement inutile, voire même toxique, ouais. Puisque oui. Ben, ça donne des promotions à des gens qui achètent déjà.
Tout à fait.
Et donc pour le coup, cette publicité qui est utilisée par les grands, ce serait en quelque sorte une forme de taxe. C'est-à-dire qu'ils paieraient pour faire venir des gens qui seraient de toute façon venus, mais ça leur coûte et ça rapporte à un intermédiaire qui s'intéresse à tout ça.
En fait, c'est ça. La publicité, ça ne rapporte des sous que à ceux qui en vendent.
Et oui, effectivement. Alors, on peut supposer que si une marque arrête de faire de la pub, elle finit par disparaître. Mais que, manifestement, dans ce qui se fait aujourd'hui, ça ne leur apporte pas de nouveaux clients. Il est possible aussi, parce que les gens qui vendent de la pub veulent gagner de l'argent, et que ce soit beaucoup plus simple de convaincre les acheteurs de pub que ça vaut le coup d'acheter que de convaincre les gens d'effectivement acheter des produits. Moi, j'ai du mal à croire que la pub soit rigoureusement inefficace. Mais je pense que les vendeurs de pubs, voilà, leurs clients, ce n'est pas les gens qui achètent les produits, c'est les gens qui achètent les publicités. Donc, ils ont fait un produit pour les gens qui achètent les publicités.
Vraisemblablement, ce produit marche super bien parce que le marché de la pub se porte on ne peut mieux, au point que bah, on a vu des conséquences. La publicité, c'est de l'argent, Google notamment, et il y a des lois, des règlements en Europe, hein, donc je vois les conséquences néfastes, qui essayent, au nom du droit d'auteur, au nom de la défense de la création, de bidouiller tout ça. Tout ça parce qu'ils veulent récupérer l'argent de la pub.
Je dis souvent que j'aimerais que l'argent qu'on paye de toute façon la publicité, c'est notre argent, puisse le donner directement aux artistes ou aux journaux qui nous intéressent. Et au lieu de passer par ce grand circuit de validation qu'on ne contrôle pas, qui souvent répond à des logiques qui ne nous plaisent pas nécessairement.
Qui alimentent des entreprises qu'on ne connaît pas bien.
Parce que si on pousse ton raisonnement un peu plus loin, si les éditeurs ne faisaient pas de pub, donc s'ils ne payaient pas pour des pubs, ils vendraient peut-être leurs produits moins cher.
Ah mais bien sûr.
Oui, oui
bien
c'est
sûr.
Des budgets. En fait, ils pensent que ça leur rapporte de l'argent, mais c'est pas le cas. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on achète, il y a une part du prix qu'on paye qui paye la pub. En conclusion, moi, je pense que la pub peut avoir de l'effet. J'ai du mal à croire que ça n'ait aucun effet. J'ai vu un autre article récemment qui avait étudié l'effet de la télévision de Berlusconi sur son élection dans les années 80.
Donc de la manipulation pure.
Voilà, et l'étude disait que ça avait marché. Voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça remet en cause pas mal du circuit économique actuel des GAFAM et que si cette faiblesse... prendre de l'ampleur, ça pourrait un peu changer la face des choses à l'avenir.
Donc on va suivre le marché de la publicité, en espérant qu'il s'écroule ou en tout cas qu'il change.
Et moi je rappelle qu'il y a plein de moyens de bloquer les pubs sur vos ordinateurs et sur vos téléphones afin de vous en passer.
Bon, bah sur ce, à la semaine prochaine.
Salut !
Salut tout le monde !